Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de cette nouvelle saison du podcast Wi-Fi Café Ambition, l'épisode 1 de la saison 7. Aujourd'hui, on va parler du nouveau livre de Josiane, Haters, Je vous aime, ainsi que de l'actualité et de la rentrée. On se voit l'autre côté de l'intro. Alright, Josiane, bienvenue sur le podcast. C'est la rentrée, c'est le 2 septembre 2022. On est sur un vendredi, ce fut une semaine incroyablement occupée pour nous. Alors, je suis au bout de ma vie. Elle ne tient que par un fil.
La rentrée scolaire, la rentrée des clients aussi, tu sais, c'est un vient de l'autre. Les gens ont fini leurs vacances, fait que ça vient tout se garrocher vers nous parce que dans 3 mois, je le dis toujours en septembre, surtout vers le 2-3 septembre, ça va être bientôt les campagnes de Noël.
Ah oui, tout arrive en même temps. En plus de la rentrée, tout arrive, tout le monde nous contacte, c'est complètement fou. Je veux dire, on s'en plaint pas, c'est le fun.
Exact.
C'est le fun, mais tu sais, on commence à avoir l'habitude aussi avec toutes les années que ça fait que justement qu'on est dans le marketing web. Puis dans cet univers-là, je veux pas dire qu'il n'y a plus rien qui nous surprend, mais tu sais, c'est beaucoup des cas qu'on a l'habitude de voir et de revoir qui filent similaires toujours à d'autres cas qu'on a vus. Puis ça fait, je trouve, qu'on peut bien réagir dans des situations de panique ou qu'on est comme
exactement.
À chaque fois, on est comme « OK, been there, done that », on sait comment gérer cette situation-là.
Tu sais, pour certains clients, dès juillet, on est déjà dans les campagnes de Noël, mais puis même des clients à partir du mois d'août qu'on est déjà rendu en 2023 là, dans leur budget
absolument.
Marketing puis tout ça, puis tu sais, on l'a vu cet été, on est déjà rendu en 2023, puis tellement qu'à certains endroits, des fois, je suis en train d'écrire 2023
mais
au lieu
déjà,
de 2022.
Mais ce que tu dis là, puis tu sais, qu'on parle, exemple, de dernière minute, puis... tout ça, ça me fait penser à une chose. Il faut que beaucoup de clients arrêtent de voir le marketing web, leur infrastructure web, comme une bouée de secours ou
dernière minute.
Comme quelque chose de secondaire. Ils sont comme, exemple, un scénario qu'on a vu dans la dernière semaine, j'ai pas atteint mes objectifs de vente cette année en boutique, qu'est-ce que je pourrais faire pour vendre plus sur le web? Oui, mais le web, c'est pas quelque chose de secondaire, fallait pousser le web dès le jour 1 de l'année, là.
Exactement, ça
fait aussi depuis des années que les ventes du web, on en discutait dans un meeting un peu plus tôt cette semaine, ont dépassé les ventes de boutique en détail. C'est incroyable. Avant, le web était quelque chose de secondaire. Moi, j'ai envie de dire que la vente de détail est rendue quelque chose de secondaire.
Ben oui, mais la vente de détail sur le web, c'est encore mieux.
Ben oui. Parlons des nouvelles.
Oui, mais juste avant, je vais juste finir une parenthèse avec la planification parce que, hey, hello,
oui.
J'ai un beau planificateur qui est sorti en juin. Donc, si vous êtes à planifier votre année 2023, ça ici, ce petit bijou-là, c'est 155 pages, 200 pages, bref. En tout cas, je ne sais plus. Je vais vous mettre le lien dans la description sur YouTube. Mais bref, c'est au-dessus de 100 pages. Où est-ce que vous avez votre calendrier éditorial? Où est-ce que vous avez votre plan marketing? Où est-ce que vous avez vos statistiques? Et les gestionnaires de médias sociaux en raffolent. Puis, la semaine prochaine, je vais vous parler d'une application que je suis en train de tester. Justement pour le calendrier de contenu. Donc, on va vous donner des outils la semaine prochaine. Fait que c'était ma petite parenthèse. Donc, le planificateur, je vous mets le lien dans la description sur YouTube. Il va être aussi dans ma bio sur TikTok ou Instagram, dépendant d'où est-ce que vous me suivez. Il est disponible pour 25$. C'est vraiment génial. Et voilà, Simon, je te laisse poursuivre.
Incroyable. Merci, Josibi.
De rien. Fallait que je le plug.
Donc... première nouvelle que j'aimerais parler, c'est un film à fois assez intéressant. Moi, j'avais complètement perdu espoir de ça, mais c'est finalement arrivé. Twitter va nous donner un bouton « Edit » pour éditer nos textes, mais ça vient avec un « mais ». Ça vient avec deux « mais ». Donc, le 1er mai, c'est qu'on va seulement pouvoir éditer nos publications Twitter 30 minutes après les avoir publiées. Si ça fait 1 heure, 2 heures qui est publié, tu pourras pas l'éditer. Ça va être vraiment pour corriger une faute ou un oubli ou peu importe. Et puis, la deuxième condition qui va venir avec ça, puis en même temps, c'est pas mauvais, parce que ça permet de garder l'idée originale si ça va trop dans une autre direction, c'est que les gens vont pouvoir voir le post, la publication originale. Je pense que c'est quelque chose qui se fait déjà sur Facebook, si je ne m'abuse.
Ça se faisait, je sais plus s'ils le font. En tout cas, bref, ouais. Mais ça, c'est vraiment le fun.
Ensuite, toutes les stocks de la tech en bourse, parlons finance, les stocks de technologie, que ce soit Nvidia, Shopify, Netflix, pendant la pandémie, c'était through the roof. Les gens qui avaient de l'argent du gouvernement l'investissaient là-dedans, pensaient faire un bon coup. C'était un bon coup avec une vision court terme, effectivement, avec une vision très long terme aussi. Sur le moyen terme, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, en ce moment, avec l'inflation, où est-ce que les matériaux sont toujours de plus en plus durs à aller chercher dans un contexte économique difficile, dans un contexte où est-ce que les gens veulent de plus en plus, dans un contexte où est-ce que les gens peuvent être indépendants puis avoir le meilleur de la vie sans être l'esclave d'une mégacorp, ben, t'as des stocks comme Nvidia qui vont perdre justement du 11% de sa valeur, ou même Shopify qui ont dû mettre dehors 14% de leur stock et puis qui a perdu à peu près 50% de sa valeur comparé à son all-time high, même un peu plus que 50% comparé à où est-ce qu'il était en 2021. C'est gigantesque, c'est dommage, mais comme on en avait déjà discuté dans le passé, c'était à prévoir, c'était extrêmement inorganique qu'est-ce qui se passait avec ces compagnies-là. La capitalisation de marché était beaucoup trop gigantesque pour la valeur réelle. C'était, comme on dit dans le domaine, surévalué, mais de beaucoup. C'était une bulle. Les plus habiles, les plus rapides et puis les plus agiles ont pris la peine de prendre des profits. Et puis, ben, ceux qui dormaient au gaz ou qui ont une vision très long terme, mais pour le moment, ils sont dans le rouge. C'est dommage, mais c'est la nature du marché. C'est quelque chose de très cyclique qui s'inflate et se déflate. C'est constamment gros up, gros down, gros up, gros down.
C'est up, down, up, down, up.
Puis entre les up, down, ben, t'as des périodes où est-ce qu'on dit que le marché va sideways, va de côté, où est-ce qu'il se passe pas grand-chose. Et puis quand on comprend la nature des marchés, qu'il y a rien de magique, et puis comme Wall Street Bet l'a dit, non, stonk not always goes up.
Fait que, yes.
Voilà. Sinon, une autre news intéressante que tu m'as partagée. Est-ce que tu veux en parler?
Oui,
puis je la commande.
Je vais en parler. Oui, parce que Starbucks, c'est pas juste pour les pumpkin spice latte qui sont sortis et les belles petites tasses réutilisables que vous pouvez acheter. Je pense que c'est au coût de moins de 5$ si je m'abuse, là, OK? Donc, où est-ce que c'est des tasses réutilisables? Donc, vous pouvez prendre votre café et faire votre snob le matin quand vous allez porter votre enfant à l'école avec ces super tasses-là. Mais la nouvelle, c'est pas ça que je veux vous dire. Bien que les pumpkin spice latte, et ça, faudrait que je fasse une étude de cas marketing là-dessus parce que j'ai des statistiques incroyables. Mais aujourd'hui, on veut vous parler d'innovation chez Starbucks et aussi tout ce qui est, vous savez, on est impliqué dans la crypto, les NFT, le metaverse, etc., etc. Et Starbucks se prend un pas d'avant. Et Simon, je vais te laisser l'expliquer exactement parce que t'es comme le spécialiste crypto ici.
Absolument. Donc, un peu plus tôt, comme tu disais, Starbucks veut ajouter des NFC à son programme de loyauté. Évidemment,
des NFT.
Ben oui, c'est ce que je dis.
Non, t'as dit NFC.
NFT à son programme de loyauté.
OK, excuse. Oui.
Okay, j'ai peut-être parlé trop vite, peu importe. Oui. Ils veulent ajouter des NFT à leur programme de loyauté. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pour le client, et comment les marques, des marques un peu plus underground qui ont intégré ce genre de système-là, comment ça fonctionne et comment je présume que ça va fonctionner?
Il y a aussi Domino qui veut implanter ça.
Exact. Il y a deux réactions. Il y a deux réactions à ça. T'as les gens qui disent « Oh my God, des gens comme moi, c'est excitant ». C'est vraiment cool, on va pouvoir utiliser cette technologie-là dans une utilisation justement dans la vraie vie pour vrai et en bénéficier. Et puis, je vais parler des bénéfices de ça un peu plus tard dans cette discussion-là. Et puis, il y a d'autres gens qui vont dire « Ah non, c'est terrible, je ne comprends pas cette technologie. Oh mon Dieu, ça va être compliqué, j'ai peur. » Et puis, qu'est-ce qui me fait peur si je me suis à la règle du 80-20, c'est que 80% des gens ont peur. Peur de pas comprendre, peur de l'inconnu. Et puis, 20% des gens soit sont au courant ou soit ont hâte de comprendre. Moi, je dis, ne vous énervez pas, ça va pas changer grand-chose. Donc, imaginez le programme de loyauté de Starbucks. C'est une application sur votre téléphone. Je ne l'utilise pas, donc je connais pas comment ça marche. Mais imaginons que j'invente des choses. 10 cafés, vous prenez 10 cafés, puis à chaque 10 cafés, vous avez un NFT qui vous donne le droit d'avoir une carte cadeau de 20$ en magasin ou un item gratuit, peu importe. Mais ce NFT-là, en gros, va vivre dans votre compte sur l'application de Starbucks. C'est qu'est-ce que je présume, c'est pas qu'est-ce que c'est. Donc là, il n'y a rien qui va changer pour vous. Ça va être dans l'application Starbucks, sur votre téléphone, et puis ça va dire, vous êtes propriétaire de ça. Par exemple, qu'est-ce que je présume, c'est dire que si vous voulez l'échanger parce que vous avez un NFT rare ou un NFT qui vous donne, je sais pas, un 20% de rabais à vie parce que vous êtes un super client de Starbucks, ben il y a peut-être d'autres clients, d'autres encore plus gros super clients de Starbucks qui vont le vouloir. Donc, qu'est-ce que le blockchain va permettre de l'avoir? C'est de l'authentifier puis de l'identifier à votre identification virtuelle sur le blockchain et de l'associer à votre compte à vous, à votre portefeuille d'items virtuels. Une fois que vous allez avoir votre NFT associé à votre compte virtuel, c'est seulement si vous décidez de le faire. La plupart qu'ils font, à la même manière que Starbucks parle de le faire, ils font d'une manière où est-ce que si la personne décide de sortir le NFT de son compte, ça l'envoie à un wallet. Où est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut aller sur OpenSea, qu'on peut le vendre, qu'on peut l'échanger, peu importe. En gros, ce n'est que bon pour le client au bout de la ligne parce que ça permet d'avoir la liberté de soit le garder sur votre compte jamais touché puis le garder comme un item de collection ou de l'utiliser comme il était fait pour être utilisé ou de l'avoir sur votre compte. Il peut un peu à la même manière que une carte de hockey ou une carte Pokémon, l'échanger, la vendre, même la louer ou avoir d'autres utilisations pour celle-ci. Fait que ce qui est le fun, c'est plus, pour faire simple, c'est plus d'options pour les clients et puis plus de ownership, dans le sens où est-ce que si tu sors le NFT de ton compte Starbucks pour le mettre sur la blockchain, ben Starbucks n'a plus une main dessus comme quand il est dans ton compte. Ils peuvent plus te l'enlever. Donc, c'est pour vrai, moi, je vois comme quelque chose de génial. Et puis, pour moi, je trouve que c'est une manière pour les clients de reprendre le contrôle de qu'est-ce qui leur appartient. Parce que qu'est-ce qui est arrivé avec le web, c'est que avec le web, les applications mobiles, peu importe, c'est qu'est arrivé un gros, une perte de propriété. Dans le sens que, si exemple, j'ai une carte physique qui dise qu'à chaque café, j'ai un café, la carte physique, elle est physiquement à moi. Je peux la vendre, je peux la louer, je peux la prêter à un ami. Ben, le fait de l'avoir sur un portefeuille qui est indépendant de l'application, ben, ça va faire en sorte de reprendre ce même ownership-là qu'on avait avant avec les systèmes physiques. Et puis, c'est un des gros avantages du blockchain parmi tant d'autres. J'espère que j'ai pas fait ça trop compliqué. J'ai essayé de vulgariser au plus possible, mais si c'est quelque chose que vous aimeriez discuter, je trouve que c'est une discussion extrêmement intéressante. N'hésitez pas à poser des questions sur le sujet, mais en gros, comment je le vois en résumé, soit vous le gardez sur l'app, soit vous l'envoyez sur la blockchain si vous voulez pouvoir le manipuler comme bon vous semble. Et puis, comme tu disais, Josiane, il y a beaucoup de marques qui sont en train d'expérimenter avec la blockchain. Un peu plus tôt, on en parlait cette semaine, Disney, puis Mercedes avec la blockchain Polygon. Et puis, plein d'autres marques comme Domino aussi, que tu disais.
Il y a qui d'autre aussi? Attends une seconde. J'ai vu...
Ben, il y a Domino, mais il y a aussi...
Applebee's, mais les gens connaissent pas ça.
Taco Bell. Taco Bell. Oui. Taco Bell, il y en a un paquet. À peu près toutes les grosses marques mainstream sont en train d'expérimenter avec les technologies. Et puis, je suis à peu près prête à mettre ma main au feu que dans les 5 prochaines années, ça va être quelque chose d'aussi commun que l'utilisation des médias sociaux d'une manière commune, les gens vont expérimenter avec des NFT. Ce sera pas long. Les gens vont expérimenter avec des NFT d'une manière aussi normale que l'utilisation des médias sociaux. Et puis, sans même s'en rendre compte, juste te donner une idée de grosses marques en ce moment qui sont à fond la caisse dans les NFT. Atari, Taco Bell, Bratz, Doll, Charmin, Panini, Nike, Warner Music Group, entre autres. Juste pour en dire quelques-uns. Et puis, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Adidas aussi. En gros, ça va... Et puis, il va y avoir plein d'utilités. Puis, on pourrait faire un podcast au complet autour des utilités du NFT. J'essaie en ce moment de contenir mon discours.
Il y a même Remax États-Unis qui, justement, commence à parler d'avoir des NFT
Ça donne tellement de sens.
Oui, 100%.
Ça donne tellement de sens. Puis, c'est tellement logique. Puis, je pourrais donner... mille et une raisons pourquoi ça donnerait du sens encore là. C'est juste qu'il faudrait que la discussion serait pas mal plus longue, mais
100%.
J'ai l'impression que on commence seulement d'une manière mainstream à se rendre compte que le blockchain, ce n'est pas juste des jetons avec des visages de petits chiens dessus. C'est pas juste non plus des NFT de singes qui se vendent 500 000 le NFT.
Ou
c'est
des petits punks,
beaucoup
là,
plus que ça. En gros, le blockchain vous permet de reprendre la possession de ce qui vous appartient dans le monde virtuel et d'en avoir les pleins droits d'administration sur ceci à la même manière que j'ai les pleins droits sur ce crayon.
Ce qui, avant, n'était
à peu près pas possible. Est-ce que tu me suis, Josiane?
Oui, c'est ça.
Qui est huge. On reprend le contrôle de qu'est-ce qu'on a sur Internet. Quand avant, c'était toujours centralisé. L'exemple de Starbucks. Quand c'est sur l'app de Starbucks, c'est Starbucks qui décide. Si Starbucks vous banne, c'est la fin. Vous avez plus de compte. Vous mangez de la merde. Vous perdez vos rewards.
Moi, je me suis fait voler une couple de fois des cartes cadeaux virtuelles de Starbucks.
Ouais.
Que j'avais gagné sur l'app.
Mm-hmm.
Tu sais, ça fait chier.
Et puis, il y a moyen de garder ses clés privées à l'extérieur de l'Internet avec un bidule comme ça. On en parlera encore sur un podcast. Mais en gros, fucking objection que j'ai à la blockchain, ce qui serait complètement débile d'en avoir, parce que c'est un gros plus pour l'humanité, tant qu'à moi, ben, j'ai une réponse logique, parce que c'est juste une évolution naturelle du Web 2.0 au Web 3.0.
Mais moi, je vais te dire quelque chose, tu sais, puis je vais le dire aussi à l'audience. Dans les prochains podcasts, selon moi, on va parler beaucoup de crypto, de métaverse, encore une fois. Puis
préparez-vous à ça. Nos clients nous parlent de ça. C'est pas juste nous. Tu sais, je me rappelle, il y a un an de ça qu'on commençait à en parler, un an et demi, deux ans, où est-ce qu'on commençait à en parler beaucoup plus activement. Qu'est-ce qui est quand même assez incroyable, c'est que c'était nous comme des débiles qui avaient l'air mongol qui en parlaient. Puis qui disait comme, oh, ça s'en vient, faites-moi confiance. Puis le monde disait, oui, mais. Puis aujourd'hui, c'est nos clients, la plupart de nos gros clients nous disent, comment est-ce qu'on pourrait commencer à avoir un pied là-dedans? Je sais que vous êtes là-dedans, je sais que vous expérimentez beaucoup avec ça. Par où qu'on commence pour avoir un pied là-dedans, bien le faire, puis le faire sérieusement, parce que on a manqué le Web 1.0, on était en retard au Web 2.0. Comment est-ce qu'on se positionne comme un leader de ce marché-là? Parce qu'on veut pas manquer cette vague-là, cette évolution naturelle qui s'en vient. Puis c'est des discussions tellement intéressantes, c'est des discussions tellement excitantes, c'est des discussions qui sont optimistes à propos du futur puis de toutes ces possibilités pour les marques. Parce qu'encore là, c'est un autre pas en avant que les marques peuvent faire qui leur coûte vraiment pas cher, pour justement leur donner beaucoup, à condition que ce soit bien fait, parce qu'on a vu des marques à plus petite échelle flopper justement leur début dans le Web 3.0 parce qu'ils ont voulu être trop vite. N'importe qui, n'importe quoi pour faire
n'importe quoi. Parce que
Surtout pas dans cet univers-là.
Ben, je vais faire un parallèle. Tu sais, on a vu aussi le gouvernement se planter avec la crypto, le charmant.
Oh, tabarnak! Oh, tu vas me faire rager, là. T'aimes ça quand je pète des coches de mon gars sur le podcast, on dirait, genre, parce que là, t'as trouvé le sujet qui va me faire trigger. Comme les compagnies technologiques à la bourse, parce que dans le fond, les blockchains et les cryptos, en gros, si on regarde les cryptos on va dire de niveau 1, comme le Bitcoin, l'Ethereum, Matic, la chaîne Polygon, Avalanche. En gros, c'est un peu comme si on investissait dans la technologie de leur blockchain qu'on investit dans leur coin de maison. Et puis, comme toute compagnie de technologie, la crypto a crashé hard en 2022. Et puis, notre gouvernement avec le... Hey, j'ai un blanc, Josiane, sur le fonds, ce sera pas long.
Je sais plus c'est quel fonds d'investissement.
Attends, continue, j'ai un
c'est
blanc.
C'est pas retraite?
À peu près, tu brûles. Attends, continue, je juste...
Bref,
Je veux juste pas dire n'importe quoi, parce que j'en suis, je pourrais être trigger. Non, mais continue, fais du temps, moi je cherche.
OK, bon, donc en gros, notre bon gouvernement
rechercher les
a investi les chez Celsius, et qui était un peu un compétiteur.
La caisse de dépôt du placement de Québec, c'est le mot que je cherchais, qui est justement ceux qui managent la caisse de retirement, de retrait des Québécois, a fait un chèque d'environ 200 millions de dollars canadiens, environ 155 millions de dollars américains, si vous préférez, à Celsius pour investir dans la crypto. Celsius, c'est un échange centralisé. OK, là, c'est correct, je comprends, c'est une grande entité gouvernementale, ils font affaire avec des entités centralisées, c'est correct. C'est pas le problème. Il y en a des très bons entités centralisées dans le monde du crypto, comme Binance, comme Crypto.com, comme Coinbase, si on va un peu plus loin, on peut dire même KuCoin. Ici au Canada, il y a ShakePay aussi qui devient assez gros. Et puis eux, le gouvernement du Québec, on dit on va placer nos 200 millions de dollars canadiens qui appartiennent aux Québécois et aux Québécoises chez fucking Celsius. Mais c'est quoi Celsius? En gros, Celsius, c'est un échange centralisé, ou si vous préférez, une banque virtuelle dans la réalité. Dans le fond, une banque, mais spécialisée pour le crypto. Mais Celsius, dès le début, était parmi les banques centralisées de crypto, une des plus petites, une des plus shaky, une avec les racines les moins solides. Pas qu'à un certain point, il n'y avait pas de futur. Au contraire, les rendements étaient exceptionnels lorsqu'on plaçait la crypto chez Celsius. Néanmoins, Celsius n'était pas Crypto.com, Celsius n'était pas Binance, Celsius n'était pas Coinbase. Et puis quand tu joues avec 200 millions de dollars de l'argent des Québécois et des Québécoises pour leur retraite, tu veux aller sur le choix safe. T'es pas Simon qui fait non-stop des moves de degen, qui rentre dans un truc, qui sort d'un truc, qui swing le truc, puis qui fait des backflips avec, qui revient, puis qui gère ça à chaque 5 minutes. Puis même moi, avec mon niveau de risque ultra élevé qui gère ça constamment en temps réel, j'ai dit, puis on a eu cette discussion-là, j'ai vu Celsius, mais tu sais quoi? Je fais pas assez confiance à Celsius pour aller là parce que je pense que c'est pas assez solide. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Quand le marché a crashé, Celsius en faillite, Celsius down, et puis dans le contrat, il arrivait que si Celsius perdait l'argent, Celsius gardait l'argent. Fuck you, la caisse de dépôt du placement du Québec, esti. Puis encore là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que j'aurais jamais fait ce move-là. On a même eu cette discussion-là avant que ça l'arrive, comme quoi, pourquoi je n'investirais pas chez Celsius. Le Québec l'a fait. Puis même moi, j'ai un risque, une tolérance au risque vraiment élevée.
Simon, je t'avais de t'enregistrer 24/7 parce que des fois, tu sors des affaires puis ça arrive. Je t'avais
de chat.
Hashtag mastermind. De t'enregistrer 24/7 nos conversations 24/7. Ouais,
puis là,
c'est
tu sors, genre, je l'ai dit il y a 5 ans de ça. J'avais dit, tu te rappelles, une couple de semaines avant, j'avais parlé de Celsius. Peut-être une couple de mois même avant. J'avais parlé de Celsius puis j'avais dit, c'est intéressant. Mais le niveau de risque me met mal à l'aise pour telle raison. Puis tu sais qu'est-ce qui est drôle? Parce que je suis pas un académique en finance. Je suis 100% self-made, self-taught. J'adore ça. C'est un topic que j'adore. J'ai déjà été. Je vais me faire dire « fuck you » par l'AMF. L'AMF va genre me chier des mains en disant « t'as rien à dire, tu connais rien, t'es un hostie d'idiot ». La caisse de dépôt, évidemment, si j'aurais essayé de parler à quelqu'un là pour dire « Celsius, il y a beaucoup de signes qui nous prouvent comme quoi ça durera probablement pas aux premières intempéries économiques. » Je m'avais fait dire « ah ah ah, t'es con, ferme ta gueule, c'est quoi tes credentials ?» Et puis là, aujourd'hui, c'est qui a raison encore? C'est moi! Je tanné!
Simon, moi j'ai lu un journaliste, c'est drôle parce que ça va faire un an bientôt que Michel nous a quittés. Mm-hmm. Et j'avais lu un journaliste qui disait, je vous souhaite votre Michel Nadeau. Tu sais, comme à notre génération, mm-hmm. à nous autres. Puis je pense que ces temps-ci, Michel nous parle. Tu sais, genre, c'est comme vrai. Des affaires de même. Genre, je l'enverrais à Lydie, puis je dirais...
J'aurais aimé ça, avoir cette discussion-là avec Michel Nadeau. Puis moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi la Caisse de dépôt du placement du Québec, tu sais, sur un ton un peu plus sérieux, a pris dans une industrie qui est risquée. C'est risqué, le crypto. J'aime ça, je trippe, mais c'est d'une volatilité extrême pour le mieux et pour le pire.
J'ai une
c'est
théorie.
C'est dangereux. Pourquoi le Québec aurait choisi un des choix les plus dangereux dans une industrie qui est dangereuse pour y placer 200 millions? C'est un risque dans un risque dans un risque. À la limite que le Bitcoin crash, le Bitcoin revient toujours tel le phénix d'une manière assez historique où dans le pire des cas, on ne perd pas tout l'argent. Dans exact. Le cas de Celsius qui fait faillite, Celsius, est-ce que je peux comprendre, se sert de ces fonds-là pour payer les créanciers et puis après, les investisseurs vont voir qu'est-ce qui reste, mais vu l'ampleur de leur faillite, il restera absolument rien. Je comprends pas que des gens du niveau de la Caisse de dépôt du Québec
J'ai comme deux théories.
Pas vu ces détails-là. Je pense que je sais où tu t'en vas, puis je suis pas mal d'accord.
OK. La première théorie, OK, avec tout l'argent imprimé par Trudeau durant la pandémie, fallait qu'il en élimine. Ça, c'est ma première théorie.
Il n'élimine pas de l'argent parce que l'argent va être distribué à les créanciers, puis les créanciers vont l'utiliser comme bon leur semble. L'argent revient dans le système, c'est juste qu'elle revient encore dans les mains des super rich, okay. C'est plate à dire,
oui.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la fin de Celsius, c'est que ça crée un Robin des Bois inversé.
Mm-hmm. L'autre chose, c'est un petit peu contrôler le narratif, puis tu sais, surtout avec le gouvernement qu'on a actuellement, qui est un peu conservateur dans ses décisions, dans ses choix et tout ça, puis dire, regardez, là, la crypto, là, on a investi ça, on a perdu ça, c'est dangereux.
Moi, j'ai deux scénarios, je pense, plausibles. C'est drôle parce que ton scénario vient de m'en apporter un autre de la manière que c'est géré en ce moment au Québec. Puis avoir les gens qui gèrent au Québec, au gouvernement, c'est drôle parce que ça vient de me faire penser à quelque chose. J'ai l'impression qu'il est arrivé soit deux scénarios. Comme tu dis, le scénario un peu loufoque de dire, ils ont été extrêmement risqués en jouant un coup de poker de ça passe ou ça casse. Dans le sens, si ça passe, on va faire plein d'argent, on va être content, puis on va avoir statistiquement un bon coup. Ouais. Puis si ça casse, c'est pas grave, parce qu'on va pouvoir le blâmer sur la crypto, comme quoi la crypto, c'est pas fin, c'est dangereux. Puis en plus de tout ça, ça va nous faire du PR pour garder l'argent des gens en fiat, en argent canadien, dans l'économie locale québécoise. C'est ça que je pense. En gros, se servir du flop pour faire une campagne de peur contre la liberté puis l'émancipation financière que le blockchain offre.
Et qu'est-ce que
et
je...
Et mon autre scénario, tu vas le rire, celle-là.
Ouais. Mais je peux juste faire une petite parenthèse. Ce que je pense, parce que là, on est en période d'élection et tout ça, là, tu sais, on commence à voir les campagnes électorales sortir. Et, tu sais, ils vont probablement s'en servir aussi durant les élections, mais surtout après les élections de ça.
Ouais, pour dire aux gens, vous vous souvenez qu'est-ce qui est arrivé? Nos meilleurs financiers ont réussi à perdre 100% de l'argent qu'on a mis là-dedans. Imaginez-vous qui êtes inéduqués fiscalement, vous devez nous écouter, right?
Exactement.
Et que je commence à savoir comment qui parle la CAQ, hein?
Oui. Bon, Simon.
C'est dangereux. Je sais pas à ça. Nos meilleurs financiers ont perdu 200 millions. C'est dangereux. Vous savez pas mieux.
Mais
qui
bref.
Aurait fait mieux? Combien de fois qu'on l'a entendu? Qui aurait fait mieux?
C'est
ben
ça.
Moi, statistiquement, Josiane, tu le sais, je track mes stats. Statistiquement, we're killing it.
C'est ça. Si jamais ils font ça, on fera un montage TikTok puis tu diras, ben moi.
Puis là bam, on monte nos stats. Ah oui, j'avoue, ce serait bon. Ce serait bon avec le gros beat drop, genre, puis toutes les stats qui défilent.
Là, c'est ça.
Oh my God. L'autre théorie, puis c'est une théorie un peu loufoque, mais encore là. Au Québec, ici, fait que je serais presque prête à la croire. C'est que, là, c'est un peu théâtral, là. Je dis pas ça d'une manière sérieuse parce que c'est fou. C'est que François Legault, il a dit à à son beau-frère ou son beau-fils ou son neveu. « Hey, Toby, tu connais ça, toi, la crypto-monnaie Bitcoin? » Puis là, il a fait « ouais, tonton Legault! » Puis il a fait « mettons que je voudrais mettre 200 millions pour notre projet de diversification, tu le mettrais où? » « Moi, j'ai tout chez Celsius, tonton Legault! » Mais tout chez Celsius, il s'occupe de tout.
Ben ça, okay. c'est l'histoire du Québec. C'est le beau-frère, mais, le neveu, exact. Whatever.
Puis ça, là, normalement, j'aurais pas dit, puis j'y crois un peu. T'sais, j'y crois pas à fond la caisse comme ma première théorie, qui est dans le fond, probablement la plus crédible. Mais une des raisons pourquoi je pourrais potentiellement croire à cette théorie-là, c'est qu'on voit tellement ce scénario-là arriver chez des clients, mais pas juste des petits clients, mais chez des moyennes à grandes entreprises, où est-ce que tu as un CEO d'une grande entreprise ou un président d'une grande entreprise qui va demander des conseils par rapport au web, au marketing web, à son fils, neveu. Son beau-fils, son neveu. C'est incroyable. Donc, sur cette note... Je vais prendre une petite pause café puis je vais mettre ça. You have to have something that sticks. Ça fit. You have to have something that's monumental when you walk out
on stage. Attention.
Jiggle.
Can you remember anything that you did? My money don't jiggle. It's all. Okay, see you wiggle. For sure. This is vulnerable. You know.
Riding in my Fiat. You really have to see it. 6 feet 2 in a compact. No slack, but luckily the seats go back. I got a knack to relax in my mind. Sipping some red wine.
I sit bruised
from chalices, holding my palaces. Grip is so cramped, you suck a supper from paralysis. Rhymes, I ride them in the castle. You try to diss me and pretty soon you're awesome.
All right.
Ouais, c'était My Money Don't Jiggle, Jiggle.
It's fold. Ah ouais, je trouvais que... Je trouvais ça particulièrement pertinent avec ce qu'on vient de parler.
Ouais, 6 feet 2 in my
when comeback.
Ouais, moi, c'est...
Et puis, parlant d'économie, puis tandis qu'on est là-dedans, je trouve que c'est un sujet passionnant puis tellement important, tellement underrated, surtout au Québec, c'est que je crois, au moment qu'on passe ce podcast-là le 2 septembre, peut-être je me trompe.
Mais ça va sortir le dimanche 4 septembre.
Mais c'est tourné le 2 septembre.
C'est ça.
Anyway, il va pas se passer bien des choses sur la fin de semaine.
C'est un long week-end en plus. Fait que...
Exact. Je crois que le pire n'est pas encore passé. Qu'est-ce que je vois depuis les quelques dernières semaines? Encore là, c'est pas des conseils financiers. Évidemment, ce n'est pas depuis le début. Faites vos propres recherches. Parlez des conseillers, des gens qui sont certifiés, voyons.
Oh. Mais oui, des gens de la AMF.
Qui mangent tout de la merde. Mais anyway, pour vrai, faites vos recherches. Faites affaire avec des entités crédibles. Je veux dire, on dit ça en blague un peu, mais sérieusement. Qu'est-ce que je vois, c'est à peu près tous les secteurs qui ont pompé positivement pendant l'époque de la COVID sont en train de tranquillement perdre des ailes. Il y a eu un gros coup vers le bas, puis là, ça essaie de remonter, ça retombe un peu plus. Ça essaie de remonter, ça tombe un peu plus. Et puis, à chaque petit creux, pour moi, c'est ce que moi je fais, c'est une bonne opportunité de racheter, de se repositionner. Mais je crois que si on continue comme ça pendant un petit bout, puis que ça continue... En général, exemple, le S&P 500 continue à aller dans cette direction-là, ben, je pense que tranquillement, à force de pas revenir, on pourrait aller dans un creux qui est encore plus creux qu'il est en ce moment. Puis, bon, les 100 dernières années nous ont prouvé que sur le long terme, c'est toujours le bon moment d'acheter, mais je crois que ça va faire pour nous, faites ce que vous voulez, une autre bonne opportunité d'acheter, mais c'est pas le temps de paniquer.
Exact.
Je pense que le futur est très bright, mais sur le court terme, je serais pas surpris dans les prochaines semaines d'entendre une panique mainstream. Puis je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de panique mainstream, surtout quand on compare où est-ce qu'on est versus où qu'on était pendant la pandémie puis que tout le monde paniquait.
Ouais.
Tout le monde paniquait, genre, on n'a pas d'argent, on va crever, mais en réalité,
mais là, il y a
pas
d'argent.
En réalité, c'est
les
là.
L'épicerie fait juste augmenter.
Les compagnies mettent des gens dehors. L'épicerie augmente comme pas possible. Genre, parlons de ça, l'épicerie. Genre...
Ah!
On a une découverte aussi vraiment intéressante.
Oui, exactement. Bon, bref, l'épicerie, tu sais, je veux dire, on a fait tout ça. La semaine passée, j'ai été à l'épicerie un peu de façon dépanneur parce qu'il me manquait des ingrédients pour une recette et ça m'a coûté 14 $ pour deux pêches, deux petits casseaux de tomates cerises et du basilic frais. 14 $, deux pêches, deux casseaux de tomates cerises. En plus, Aliment Québec pour les casseaux de tomates cerises et pour le basilic aussi, là. Fait que, 14 $ et 81 sous. J'ai fait comme, what the fuck? Mais ce matin, j'ai été chercher 35 $ de viande. Puis là, tu te dis, ben, combien t'en as eu?
35 $, ça doit être un morceau et demi, deux, trois gros maximum.
C'est ça. Non. J'ai été chercher pour à peu près l'équivalent de 7 à 8 portions de steak et
pour 35 $.
Quoi, 2 livres de moule? Là, vous allez dire, comment t'as fait ça, Josiane? Comment t'as fait ça?
OK. T'as hijack un truc de bouffe.
Chut, non, non. Les fausses accusations.
Ben non, c'est une
peut-être
blague.
Dans Haters, je vous aime deux, on expliquera ça. Non, non.
La fausse Simon a dit que j'ai hijack un truc de bouffe.
Là, le SWAT est débarqué chez nous.
C'est pas moi, je vous jure.
On a découvert, durant l'été, ben un petit peu avant l'été, on a commencé au mois de mai parce que justement, tu sais, on connaît nos ressources, tu sais, dans le sens où est-ce, qu'est-ce qui se passe l'été dans toutes les agences marketing que je connais, c'est plutôt calme. Tu sais, il y a du mouvement, mais c'est plus long, c'est plus calme. Ginette à comptabilité, elle oublie d'envoyer le paiement avant de partir en vacances. Fait qu'il faut que tu attendes 2 semaines qu'elle revienne en vacances.
Tout est au ralenti.
Fait que moi, à partir du mois de mai, ben, à chaque année, je fais des budgets de Mongol, puis je vois une publicité sur Instagram Food Hero. Je fais « Ah! Ça m'intéresse des rabais. » Je l'essaye.
Comment ça fonctionne?
Première fois que je commande, il y avait des beaux filets de porc, 4 $. La portion pour 3 personnes, parce qu'on est une famille de 3 personnes, je trouvais ça très raisonnable. 4 $, un filet de porc. Fait que j'avais acheté quelques filets de porc et tout ça. J'arrive à la maison, c'est du Nagano. Tu sais, top quality, là. Fait que j'ai fait comme, oh my God, top, top. Fait que ça a été comme ma révélation. Fait qu'on télécharge une application, on commande au travers l'application, puis on choisit qu'est-ce qu'on veut, tu sais, parce que, et on peut magasiner dans plusieurs.
Le temps que tu fais cette histoire, je reviens 30 secondes, mais je te laisse continuer.
Donc, justement, on magasine selon le IGA ou Métro, parce que c'est principalement des IGA ou Métro, et on choisit, mettons, la viande, le poisson qu'on veut et tout ça. Et la semaine dernière, v'là 2 semaines, j'ai magasiné pour à peu près 200 $ de viande. J'en avais même plus que lorsqu'on va chez le boucher avec une boîte budget ou des choses comme ça qu'on peut demander dans certaines boucheries. Et puis, la qualité est top-notch. J'ai du sterling, du Angus 3A comme steak, du saumon sans antibiotiques, toutes sortes de choses comme ça qui sont vraiment géniales pour la consommation, mais aussi tout ce qui est justement à propos de ça, on a même acheté des collations, on a eu même des épices, les sauces Fire Burns, probablement que l'épicerie en avait trop commandé pour l'été, ben on les a payés 80 sous au lieu de 3 $, donc on a économisé beaucoup. Puis en un été, on a quand même économisé 700 $ sur notre épicerie, fait que c'est quand même très considérable comme application. Ça, c'est la première application. La seconde, c'est Flash Food. Flash Food est une application un peu à la même manière que Food Hero. Par exemple, qu'est-ce que j'aime de Food Hero aussi? 99% des produits arrivent congelés lorsqu'ils peuvent être congelés, c'est-à-dire viande, fromage, toutes ces choses-là arrivent congelées quand vous les recevez. Dans le fond, vous allez les chercher à l'épicerie, mais quand vous le recevez dans vos mains à l'épicerie, c'est congelé, donc vous pouvez le mettre au congélateur et on peut faire encore, tu sais, un 1 à 3 mois dépendant de tout ça. Donc, tu sais, des fois, pour faire des stocks, des choses comme ça, ça vaut vraiment la peine. La deuxième application, c'est Flash Food. Ça, c'est plus du frais. C'est plus manger vite. Mais c'est très utile. Moi, je le prends pour les paniers de fruits et les paniers de légumes. À chaque semaine, là, ça me coûte entre 5 et 10 $ pour des paniers de légumes. et des paniers de fruits, où est-ce que j'ai toutes sortes de choses, donc je ne sais jamais qu'est-ce que je vais avoir. C'est un peu une surprise. Je vois un peu la photo qui a été prise sur l'application, mais des fois, ça rend pas nécessairement justice. Comme là, j'ai beaucoup de citrons. Fait que là, probablement qu'en fin de semaine, je vais faire de la limonade, des choses comme ça, mais c'est encore là, acheté sur l'app. Donc, Food Hero et Flash Food nous ont fait sauver facilement. Ben, en fait, ce matin, je l'ai vu, 700 $ d'épicerie en 3 mois, donc de mai à août. Et puis, je le recommande vraiment, tu sais, pour les familles qui se plaignent que l'épicerie augmente et tout ça. C'est des choses que même, on a du biologique là-dedans. Puis même pour Flash Food aussi, là, tu sais, j'ai pas été déçue. Puis quand il y a des affaires, tu sais, comme, mettons, des bananes un peu noires ou des trucs de même dans Flash Food, ben, tu sais, un pain aux bananes ou encore, tu sais, j'ai fait congeler. Puis, je me fais des smoothies avec ça le matin, là. C'est super bon, c'est super rapide. Puis, voilà. Okay, c'était ma parenthèse, foodies, gestion des ressources et tout ça. Et ça fait déjà 40 minutes qu'on parle.
Ben oui, totalement, totalement. Hey, donc, pour terminer, Josiane, peut-être un dernier 5 minutes.
Un dernier 5 minutes?
Quoi de cet été, de sortir un livre, de travailler tout l'été?
En fait, ça fait 6 mois que je travaille dessus.
Ça fait 6 mois que tu travailles sur le livre.
Je vous aime. Parle-nous, je vais mettre le lien dans la description. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre. Là, faut mettre une petite musique zou bisou bisou parce qu'il y a de l'amour ici à donner.
1, 2, 3, 4.
Alors, cet été, en fait, j'ai commencé à écrire ce livre un 14 février 2022. Ça faisait 2 semaines que j'étais la cible, la tête de Turc. Je vais utiliser son nom fictif, Nicolas, avec ses comparses. Ça, c'est bien dit, hein? Et ça m'a... je me suis décidée à écrire ce livre-là pour parler du phénomène des haters, la psychologie derrière les haters. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ragent? Est-ce que les haters ont augmenté durant la pandémie? Et je raconte aussi mes histoires personnelles avec les haters, comment j'ai géré ça. Je donne des trucs, des conseils, comment gérer l'intimidation en ligne. Le fait d'avoir des haters, c'est pas ça qui me dérange parce que, tu sais, genre, habituellement, t'es bloc d'élite puis ça finit
c'est
là.
Normal.
Puis merci, bonjour.
Ça vient avec le fait d'être sur Internet.
Mais
ce n'était pas un scénario comme les autres.
C'est ça. Le scénario avec l'histoire de Nicolas et ses comparses, parce que j'en parle aussi là-dedans, c'est que eux, ils ont décidé que j'étais leur cible, mais en plus de ça, il y avait une certaine tribune. Et en plus de ça, ils ont décidé d'inviter leur audience à faire des choses pas possibles, des tentatives de cyberattaque, puis des affaires que
présumé.
Tu fais comme... ouais, des présumés, ben c'est ça, des présumés tentatives de cyberattaque, merci. Des choses comme ça, ou encore, pis ça, on l'a vu, on mettait live le podcast, on avait des insultes live, fait que tu sais, on a comme pris une pause aussi des médias sociaux à travers ça. Puis, ben c'est ça, ça a donné un livre de 224 pages avec une playlist Spotify à la fin. Puis, je suis vraiment contente d'avoir écrit ça parce que, tu sais, c'est pas juste moi qui le vis. Puis, j'ai interrogé mon audience, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui m'ont partagé. J'ai même un témoignage d'un psychologue vraiment le fun. Il y a François Lambert aussi, que je cite à quelques reprises. Il m'avait dit « pas de problème, on a eu vraiment du fun à créer ça ». Il y a Coffee K. Et il y a une citation de Michel Nadeau. Quand je disais Michel Nadeau, cette citation-là m'a été offerte par Lydie, sa femme. Et c'était « Seuls les insignifiants n'ont pas d'ennemis », Michel Nadeau. Donc, c'était comme... J'ai décidé de le dédier à la mémoire de mon ami et mentor Michel Nadeau. Donc, c'est un petit livre dédié à Michel. Donc, et je l'ai dédié aussi à mes haters parce que ce livre a été réalisé grâce aux haters. Si, j'aurais pas subi l'attaque que j'ai subie en février, ce livre n'aurait jamais vu le jour. Donc, je tiens à remercier les haters ayant été bruyants et ayant permis la création de ce livre. Je les remercie d'avance car ils vont certainement parler de ce livre. Merci pour la publicité et la visibilité gratuite. Merci également aux haters décidant d'acheter ce livre pour en parler. Sincèrement, merci du fond du cœur. Vous méritez que des bonnes choses. Namasté. Donc, tu sais, ça m'a fait du bien aussi d'en parler parce que, justement, ce que j'ai vécu, c'était anormalement intense. Des présomptions à mon sujet, des accusations sans fondement, des libelles diffamatoires et j'en passe. Tu sais, c'était vraiment...
Mais il y en a même qui ont été jusqu'à contacter même certains de nos clients.
Exactement.
Ouais, c'était complètement malade.
D'un côté, il a fallu qu'on mette des effectifs de notre côté pour gérer tout ce hate-là. Oui. Et de l'autre côté, on a eu, et là je le dis, tu sais, on a vraiment eu à mettre des ressources pour ça aussi. Et de l'autre côté, c'était fallait rassurer nos clients. C'était quoi le drama, si ça. Je me suis même fait dire, ben ça te tenterait pas de faire un témoignage. Je dis non, je le fais pas tout de suite. Je veux laisser tomber la poussière. Puis quand je vais le faire, ce témoignage-là, et de remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là, où est-ce qu'on m'accusait de plagiat, qu'on m'accusait de toutes sortes de choses, alors que j'ai des mots de la compagnie qu'on me suppose que j'ai plagié.
Que ben, tu sais, je veux dire, c'est tellement plus que ça, tu sais, je veux dire, ça, sans rentrer dans les détails, c'est tellement complexe, c'est tellement...
Exactement. Donc,
ça va tellement loin. Ce qu'on a dû faire, justement, pour se réajuster, c'est tellement complexe, ça va tellement loin.
J'en raconte une bonne partie dans le livre.
Évidemment, il y a certaines choses qu'on peut pas dire.
Exactement. Encore. Mais, tu sais, qu'est-ce que les égards, les accusations et tout ça qu'ils ont fait à mon égard étaient injustifiés. Ils étaient tout simplement...
Fait qu'en gros, ça l'a créé un livre, et puis ce livre-là, justement... Tu fais pas juste parler de ça, tu fais pas juste parler de cette situation-là, mais de la culture de la haine sur Internet, de justement
dans
comment
la culture populaire aussi, tu sais. Si
oui,
mais
raconte-nous de qu'est-ce que tu parles dedans.
Ben c'est ça. Donc tu sais, c'est sûr que ça c'est le gros morceau qui a fait que, comme on
absolument,
disait,
absolument, exact. Ça a été l'étincelle, mais c'est beaucoup plus que ça.
Tu sais, je parle aussi, tu sais, des films au cinéma que on nous fait détester, mettons Cruella, tu sais. Ben, tu sais, Cruella, ils ont sorti après ça des films. Le Joker, la même affaire. Puis là, tu comprends un peu plus la psychologie de ces choses-là. Puis tu fais comme, ben voyons, je l'ai haï toute mon enfant. Puis là, je suis en train de la prendre en pitié. Fait que tu sais, c'est comme, on est tout en train, tu sais, on se fait programmer à haïr certaines personnes parce qu'ils sont différentes, ils ont des opinions différentes. Et tu sais, j'en parle là-dedans. J'en parle aussi que c'est beaucoup au niveau d'éducation. Je parle aussi des profils de haters parce que moi, c'était pas de, tu sais, faire comme « Ah, oh, ben un tel a fait ci, genre le gros méchant. » Non. Mon but, c'était pas ça du tout. C'était plus de mettre des personas parce qu'il y a des personas qui reviennent dans les haters,
dans
qui a tout le monde que je parle.
C'est pas juste une histoire de c'est une histoire de...
Internet au complet.
De l'Internet, puis de tout le monde qui peut être impliqué dans ce genre d'histoire-là.
T'sais,
parce que t'es pas la seule personne qui a envie des histoires comme ça,
malheureusement. Exactement. Si je prends, mettons, un personnage comme... J'ai créé des personas, parce que des personnotypes, pour moi, c'est important de les mettre en place, dans le sens où est-ce que, mettons, on prend Gérard. Ben, des Gérards sur Internet, il y en a. Puis, tu sais, des fois, ça peut être sa femme Monique, là, tu sais, mais on a comme mis une tranche d'âge, tu sais, comme un peu comme un client type ou des choses comme ça, tu sais, quand on fait clientèle cible en marketing. Fait que j'ai été vraiment très pragmatique comme ça, dans le sens que je voulais me détacher aussi un petit peu puis prendre du recul, puis de le faire pas romancer, mais, tu sais, montrer le ridicule de la chose. Donc, Gérard est un homme qui n'apprécie pas les femmes, sauf si elles sont dans la cuisine. Ça, sur Internet, on en voit beaucoup. Tu sais, généralement boomer, retraité, il a une opinion et veut le donner sur tout. Il manque de filtre. Il va même émettre des commentaires de son époque. C'est le moins dangereux. C'est comme un long raciste et misogyne dans les parties de famille. Tu l'ignores, il va s'en aller jaser à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça. Tu sais, il y a un peu d'humour, il y a un peu de sarcasme là-dessus ou des choses comme ça. Ça a été vraiment des semaines de recherche. Et comme je te disais, moi, qu'est-ce qui m'a épuisé, c'est que je me rends compte que j'ai écrit ça en 6 mois. Alors que j'ai déjà écrit, voilà, 15 ans, un livre en 4 ans. Tu sais, c'est comme... C'est... Fait que ça a été du sport. C'était un beau défi à relever. Puis, tu sais, vraiment, je pense que tout le monde devrait le lire. Tout le monde devrait vraiment lire ce livre-là. Simplement pour se détacher justement des caractères des haters, puis de comprendre que autant le hater qui déteste, comprendre un peu que ses agissements, c'est peut-être par son éducation, que c'est peut-être par ses valeurs, que c'est peut-être parce que lui-même est pas bien dans sa peau.
Mais ça me fait penser d'une chose qu'on pensait justement, qu'on parlait un peu plus tôt aujourd'hui, c'est que tu sais, c'est pas comme dans les films où est-ce qu'il y a un gentil puis un méchant, puis tu on l'a découvert avec les films qui montrent la perspective des méchants, tu sais, comme le Joker ou Cruella, mais c'est plutôt une question de perspective, d'éducation, de point de vue, ça peut être beaucoup de choses. Tu sais, c'est rarement ni blanc ni noir, mais comme tu disais déjà sur un autre podcast, il y a plusieurs nuances de gris.
Oui, exactement. Tu sais, il y a plusieurs nuances. Puis, tu sais, je parle aussi de la pensée critique. Je parle aussi de ton branding dans le luxe et l'arrogance. Oui. Donc, tu sais, toutes ces choses-là. Puis, en passant, on a vu en plus des gens porter ton
oh, ça, c'était cool! Ça, c'était cool!
Oh, c'était cute! Ça, c'est ma petite parenthèse dans le luxe et l'arrogance. C'était vraiment cool. Mm-hmm. Donc, merci aux personnes qui nous envoient vos photos et qui nous les montrent et qui nous taguent.
Ah, c'était vraiment cool, là-dessus. Ouais. Donc, parce que je fais du stream, justement, entre autres, @SimonR91 sur Twitch. Je stream principalement du GTARP. Oui. Et puis, l'image de marque que j'utilise, justement, autour du personnage que je fais, ben, c'est dans le luxe et l'arrogance.
Exact.
Et puis justement, ben, il y a. Et on s'est fait envoyer des photos de gens qui portaient notre merch, donc c'est assez cool.
Et tu sais, pour appuyer ce livre-là avec mes arguments et tout, ben, j'ai fait appel à Dr. Paul Simard. Là, je ne veux pas nommer tout son titre parce que c'est assez compliqué et complexe, mais allez le voir sur TikTok. C'est un psychologue qui est également TikToker. Et puis, où est-ce que, tu sais, justement, il parle des fois de ces mécanismes-là envers les haters. Donc, tu sais, ça a été vraiment travaillé. Et j'ai aussi, dans mes recherches sur les haters, je suis tombée sur Dr. Christine Mary, qui a fait une recherche doctorale sur le fait comment que les gens victimes de haters et d'humiliation publique. Parce que dans mon cas, c'était plus une humiliation publique. Dans le sens où est-ce que, tu sais, on avait utilisé des vidéos, on avait fait des fausses accusations et tout ça, eh bien, c'est un peu ça qui va se passer aussi, puis c'est normal de vivre ça. Puis tu sais, de remettre, ben c'est normal que tu te sentes stressé après avoir eu 200 commentaires en moins de 24 heures. C'est normal, tu sais, il faut le normaliser, ça aussi, que le commentaire sur Internet, ça peut affecter, mais pas parce que t'en as un, c'est parce que t'en as des centaines, des milliers, des gens qui crachent dessus, des gens qui essayent de t'attaquer de tout bord, de tout côté, des choses comme ça. Ça, c'est ça qui a été le plus grave, tu sais, c'est plus ça. Puis, justement, tu sais, je vais vous en lire un petit extrait, tu sais. Je parle, justement, tu sais, de la recherche doctorale du docteur Christine Mary, et je dis « Et tout ça a un impact énorme sur la santé mentale. Une des publications Instagram du Dr. Christine Mary énonçait la longue liste des effets des attaques que les cibles peuvent éprouver ou même vivre. » Donc, les attaques publiques, qu'est-ce que ça l'amène? Ben, c'est ils sont exposés à des attaques malveillantes privées, publiques ou bien professionnelles. Ça, je l'ai vécu. Ils perdent leur bonne réputation et leur crédibilité. Les opportunités futures sont endommagées ou détruites. Les cibles sont chassées de l'humanité, traitées comme s'ils étaient indignes, contaminées. Les cibles se sentent impuissantes à corriger l'histoire, même si les accusations sont fausses ou mal interprétées. Ça, je l'ai vécu. Les cibles se sentent humiliées, déshumanisées et objectivées, exploitées ou utilisées. Les cibles sont confrontées à une réelle inquiétude concernant les dommages en cours ou futurs. Ça, je te dirais, on l'a vécu, on s'est posé beaucoup de questions. Il y a un impact négatif sur le bien-être, oui. Pas dormir, se demander s'il y a du monde qui allait débarquer chez nous, la sécurité, tu sais. Donc, la santé mentale est endommagée, oui. C'est sûr que tu te relèves de ça, mais tu sais, ça prend beaucoup de travail. Par chance que j'ai un homme formidable qui vit avec moi, que t'es capable d'en...
Voyons.
Puis tu sais, je pense que la fatigue qu'on vit en ce moment, parce que Simon et moi, on est très fatigués en ce moment, mais je pense que c'est dû beaucoup à la pression que... Un coup que ça a été release, ce livre-là, ça nous a comme libéré beaucoup, mais tu sais, on peut le dire, là, on est fatigués, puis c'est ça. Ils subissent des pertes financières. Ben oui! Je lançais un livre quand j'ai été attaquée. C'est sûr, j'ai perdu des pertes financières, tu sais. Leurs créations peuvent être leur être tirées.
Ben, tu sais, pas juste ça, mais aussi, tu sais, tout le temps qu'on a passé, nos clients qui ont été contactés, de nos sous-traitants qui ont été contactés aussi, de nos clients puis nos sous-traitants qui ont, eux aussi, justement, subi du harcèlement. C'est malade, là. Ça a été loin des gens dans notre cercle social qui ont subi du harcèlement venant justement de gens qui découlaient de ça. Tu sais, je veux dire, ce que je trouve, on va dire, extrêmement décevant, c'est les gens qui commencent quelque chose comme ça, mais ce que je trouve épeurant, c'est les followers de niveau religieux. Ceux qui disent, parce qu'un tel a dit telle chose, je vais te trouver, puis je vais te poignarder. Tu comprends? Ça, c'est fucked up. Ça, c'est épeurant. Ça, c'est comme, tu sais, je veux dire, tu sais, comme, ça va, tu sais, on se sent safe parce que, tu sais, on connaît notre quartier, on connaît notre entourage, où qu'on est, tu sais, ça va. Mais c'est épeurant.
C'est un service de sécurité privée, quasiment.
Bon, on n'est pas loin du poste de police, fait que déjà, ça l'aide, mais, mais quand même, quand tu reçois, tu sais, évidemment, c'est pas ceux qui ont colporté le message original, qui vont dire des propos aussi extrêmes, mais les gens qui en découlent, qui ont des propos aussi extrêmes, tu dis, jusqu'où qu'ils vont aller pour faire plaisir à leur gourou, tu sais.
Exactement, tu sais, puis ben, c'est parce que eux autres veulent, c'est des people pleasers, là, tu sais, on va se le dire. Mais puis, tu sais, qui ont pas de personnalité non plus, généralement, là, tu sais, c'est soit des Kevin ou des fatalistes, là, on le sait. Ça, c'est les personas qu'on a déterminés pour ce genre de monde-là. Donc, tu sais, c'est ça. Puis là, c'est, tu sais, les réalisations passées sont invalidées. Ça, je peux le dire que c'est entre parenthèses vrai. Ils veulent se cacher du monde. Ben oui, je sortais plus, je faisais plus rien. Tu sais, genre, même c'est toi qu'il fallait que m'encourage pour aller à l'épicerie, là, tu sais. Le temps s'arrête avec une perte de productivité, oui. Il y a altération du fonctionnement de la vie saine. Ben oui, je me suis empiffré un peu dans les chips puis dans la crème glacée en masse. Ils sont rejetés par la... tu sais, parfois bannis des choses qu'ils aiment. Les cibles ont des changements indésirables dans leur mode de vie qu'ils leur ont imposé, oui. Les cibles sont parfois victimes de commérages, totalement. Les familles, amis, collègues sont également attaqués. Yes! Si la cible a réellement fait quelque chose d'offensant et souhaite le réparer, il n'y a aucun moyen acceptable de faire amende honorable qui plaise à tout le monde.
Mais encore là, puis tu sais, si on a discuté, si on essaie de réparer quelque chose qu'on n'en est pas coupable, on devient coupable.
Ben c'est ça, une bonne responsabilité pour...
C'est, tu sais, je veux dire, de réparer quelque chose que t'as pas fait, c'est d'accepter une culpabilité pour quelque chose que t'as pas fait, tu sais.
Ben c'est ça, puis toutes les tentatives sincères pour arranger les choses seront mises à part, jugées inadéquates, performatives et insuffisantes.
Absolument, c'est juste ce qu'ils veulent.
Apprendre à s'excuser, grandir et faire amende honorable publiquement ne suffit pas. Encore une fois, t'sais, on dit aux cibles qu'elles ne devraient pas être en vie. Ce qui fait sentir en danger, en sécurité.
On vient d'en parler encore une fois.
C'est ça. Parfois, ils doivent déménager. On le considère vraiment. Les amis ou témoins des fausses déclarations ont peur de défendre. Ça aussi, je l'ai vécu. T'sais, ils ont peur de te défendre. Pour devenir, parce qu'ils ont peur d'être la prochaine cible.
C'est vrai, c'est vrai.
Et ça, c'est un psychologue qui le dit, là, puis que j'ai été chercher cette information-là, puis c'est dans mon livre. Parfois, ils perdent leur emploi et leur assurance maladie. Ça, c'est pour les gens qui travaillent, ça l'arrive. C'est des choses comme ça. Moi, j'ai même lu des histoires de cancel que la fille, son chum, il a décidé qu'il était plus avec.
Oui, ça, on en a vu aussi, oui.
Fait que c'est ça, tu sais, donc ils sont dans un désespoir profond et durable. Il semble que personne ne comprenne. Puis, tu sais, c'est tout des graves signalements de détresse psychologique, là. Puis, si jamais vous vivez ça, allez consulter. Vraiment, allez consulter. Parce que, tu sais, il y a aussi, tu sais, toute l'angoisse, la trahison, la colère, la rage, la vengeance, l'horreur, la dépression, l'autoculpabilité, le dégoût de soi, la perte d'estime de soi aussi, l'anéantissement de l'identité, puis des idées, ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires. Fait qu'à un moment donné, il faut prendre conscience de ça, que ton petit commentaire sur Internet, t'es peut-être le 300e à dire ça. Fait que c'est beau, on a compris la joke, passe à autre chose. Excuse-moi. Un petit chat dans la gorge. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, on a eu beaucoup de discussions aussi autour de ce livre-là.
Ben oui.
Et tout. Puis, on parle de plein de choses, vraiment. Hater, je vous aime. C'est vraiment une anthologie. Mais je vais lire le commentaire que j'ai reçu de Roxane Bertrand sur le livre.
Ouais, super commentaire.
Désolée. Je vais juste le trouver dans 2 secondes. Mais je pense que c'est le commentaire le plus pertinent qu'on a sur le livre et qui décrit très bien le livre. Tu sais, pour vrai, je pense que je vais demander à Roxane, peux-tu faire le résumé de mon prochain livre?
Nice. Ah, il est vraiment nice.
Oui, il est vraiment nice. Donc, je vais juste prendre une petite gorgée de café. OK. Bon, ça sera pas long. C'est en train d'ouvrir un petit peu là.
Absolument.
Donc, oh, attends, j'ai pas la bonne version. Parce qu'on a sorti une version noir et blanc et une version couleur. Et il y a aussi la version Kindle de disponible. Donc, l'autrice, donc c'est beaucoup plus qu'une histoire de troll. Ça dit tout. L'autrice nous raconte le calvaire qu'elle a vécu à cause de haters trolls qui l'ont salie sur les réseaux sociaux. Elle s'intéresse également aux causes fondamentales qui amènent à ces comportements qui dérangent qu'on trouve de plus en plus sur les réseaux sociaux depuis mars 2020. Parce que oui, depuis la pandémie, il y a eu une augmentation et je suis pas la seule à le penser. Et plusieurs spécialistes dans le domaine aussi. Puis on a fait vraiment, tu sais, aussi une recherche par rapport à ça. C'est également un ouvrage qui parle de la peur du jugement qui touche beaucoup de gens, qu'ils soient entrepreneurs ou non. Un must-read pour tous ceux et celles qui passent beaucoup, entre parenthèses, trop de temps sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense que ça résume très bien, Hater, okay. Je vous aime. Pour moi, c'est un ode aux haters qui ont besoin de lire ça, mais aussi les personnes qui sont confrontées à des haters. Je parle, tu sais, de tout, justement, que, tu sais, moi, pendant que j'écrivais ce livre-là, qu'est-ce qui me frustrait le plus, là? Je vous le dis, c'est le gouvernement québécois qui faisait avec le Mégane Brouillard des publicités sur le cyberharcèlement auprès des jeunes. Et puis, je me disais, crime, ça passe pas aux jeunes de le montrer nécessairement en premier. C'est aux adultes.
Ben
les
oui.
Adultes, c'est encore plus grave les adultes, parce qu'il y a des conséquences.
Ben c'est ça, comparativement aux jeunes,
criminels.
C'est que ils sont, mettons les adultes de notre génération puis avant, c'est qu'ils ont grandi avec la mentalité de si c'est sur l'Internet, c'est secondaire. Si c'est sur l'Internet, c'est pas pour vrai. Mais la réalité est tout autre.
Exact. T'sais, donc, c'est ça. Puis, ben, bref, ce livre-là, Hater, je vous aime, est disponible sur Amazon. Et Amazon est le préféré des Québécois selon
oui,
justement
fait
les
numéro
affaires.
Numéro 1 sur Kindle, je crois.
Oui, pendant une semaine. J'aimerais
pendant
ça.
Pendant une semaine.
Oui, j'aimerais ça.
Nice.
Revenir à ce numéro 1-là. Là. Présentement, je suis dans le top. Une petite seconde, je regarde. Où est-ce que je vois le top? Ah, ben, c'est pas pire. C'est pas pire. Là, je suis présentement dans français. Mm-hmm. Donc, je suis numéro 12.
Wow!
Numéro
c'est vraiment
12.
Hot.
Fait que,
c'est
quand même,
hot.
Je suis pas, tu sais.
I'm so proud.
C'est ça. Fait que, tu sais, quand même, numéro 12. Puis, tu sais, si vous avez Kindle Unlimited, ben, ça se peut qu'il se retrouve peut-être des fois gratuit. Parce que
avec
Amazon,
l'abonnement Kindle Unlimited.
Unlimited, exactement. Donc, vraiment parce que Kindle et Amazon décident des fois de pousser des livres comme ça au hasard. Donc, on vous invite à le lire.
Super, super. Donc, ben, ça fait 1h03 qu'on est là.
Oui?
Donc, le podcast tire à sa fin.
Oui.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci aux haters de nous écouter.
Aussi.
Oui.
Aussi, I guess.
Ils font partie de nos communautés, Simon.
J'ai eu, encore une fois, beaucoup de fun à faire ce podcast-là.
Mais moi aussi.
C'est vraiment intéressant de parler de qu'est-ce qui s'est passé. Et puis surtout,
de
je
faire
regarde
le
l'avant.
Point.
Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour le futur. Une des raisons aussi qu'on est fatigué, c'est qu'il s'est passé énormément de choses dans les derniers quelques semaines, quelques mois. On a travaillé sur beaucoup de projets à l'extérieur
exact.
De ça. Des choses qui sont en train de se mettre en place, évidemment.
Exact.
Tranquillement, un rebranding au niveau de l'agence. Ça, on va en parler, je pense, plus dans les prochaines semaines d'une manière très claire, très concrète. Mais c'est vraiment le fun, c'est vraiment excitant. C'est
puis
vraiment
aussi
excitant
avec
de se réaligner.
Des haters, on avait mis en hors ligne josiannebrousseau.com. Puis là, on l'a remis en ligne.
C'est ça, on est en train aussi de profiter pour bien, pas bien faire les choses parce que c'était déjà bien, mais tu sais, pour... C'est ça, tu sais, pour remettre au goût du jour, fait que c'est vraiment cool. Et puis,
on vous en parlera bientôt.
Ben, c'est ça, exactement. So, that was it. Merci d'avoir été avec nous et puis on se revoit.
Attends, t'as beau. Tu sais, j'aime tout le temps ça, parler, tu sais, d'achat local et tout. Mm-hmm. Et cette semaine, j'en ai parlé sur un live Twitch que je fais, parce que oui, je suis sur Twitch aussi. Je fais des lives pour parler marketing.
De temps en temps, ben ouais.
Exactement. Et cette semaine, j'ai reçu un super emballage. Puis quand je dis, oh, puis là, pensez-y, là, parce que les campagnes de Noël s'en viennent. Puis ça peut être quelque chose de mettre en pratique. Et bref, j'aime beaucoup la TikTokeuse Popcorn et Pantoufles, qui est une amie à moi aussi, qui est Annie Durocher. Et elle a créé des super carnets, super cute, puis c'est recyclé. C'est des anciennes pochettes de VHS, des super carnets. Mm-hmm. Elle, ça vient avec le petit signet, fait qu'il n'y a pas de perte. Ça, c'est comme le dos du carnet. Puis ça, c'était des trucs qui étaient comme brisés ou tout ça. Donc, ici, on a justement, tu sais, Hocus Pocus, c'est celui que je me suis procuré. Et dans le paquet, j'ai reçu deux chouchous. Il y a des petits stickers aussi qui ont été ajoutés, tout ça. Donc, tu sais, des fois, juste rajouter, si vous êtes dans le commerce du détail, tu sais, une petite affaire qui vous coûte pas trop cher à produire ou à faire ou autre. Mm-hmm. Puis que, tu sais, les gens vont en parler, les gens vont revenir en acheter, les gens vont revenir vous voir. Donc, voilà. C'était ma petite parenthèse achat local. Puis je vous invite, je mettrai le lien dans la description sur YouTube. Je vous invite à aller visiter. Il y en a de toutes les couleurs. Elle a aussi avec ça des pochettes d'anciens VHS, des sous-verres. J'observe les sous-verres parce que je les trouve vraiment originales. Puis je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, tu as une soirée un peu plus spéciale où tu décides de faire une soirée cinéma, quelque mm-hmm. chose. Tu sais, quelque chose un peu plus edgy puis unique. Ben, livres là, sont en résine et tout. Donc, c'était ma parenthèse achat local. Donc, on va terminer ça là-dessus.
Merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne fin de journée, un bon Merci. Début de journée. Peu importe comment vous écoutez ce podcast-là. Oui. I wish you all the best et on se reparle bientôt. Ciao!
À bientôt!